Je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui en Suisse que l'assistance au suicide soit quelque chose de complètement pérenne et que ça soit quelque chose d'indiscutable et qui ne fait pas encore l'objet de polémiques.
RFI, grand reportage.
Le débat sur la fin de vie suscite beaucoup de commentaires, de passions, de crispations parfois dans la société. Cet automne, le cas Jean-Luc Godard a relancé la question de la légalisation de l'aide au suicide en France, comme c'est le cas en Suisse depuis des dizaines d'années. Là-bas, la pratique fait consensus, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne fait plus débat. Suisse, la mort tranquille, c'est un grand reportage de Jérémy Lanche.
C'est sûr qu'au tout départ, quand on nous parlait d'un suicide que la personne n'avait pas vécu le seul par ses propres moyens.
Organiser 4 jours de rencontres sur le thème de la mort en plein automne, alors qu'il fait gris, qu'il pleut et qu'il commence même à faire froid à Lausanne, le pari de la manifestation, les couleurs de la mort étaient risquées. Et pourtant, nous sommes un samedi, il est à peine 9h du matin, et plusieurs centaines de personnes sont venues écouter un débat sur l'aide au suicide. On note qu'il y a beaucoup de jeunes dans le public, mais aussi des gens d'un âge plus avancé qui se posent la question de l'aide au suicide pour eux ou pour leurs proches.
J'ai l'impression qu'on en parle relativement librement. Malgré tout, je prouve quand même le besoin de pouvoir continuer, puisque maintenant je me trouve un petit peu face à cette problématique.
J'arrive à un âge où finalement la mort nous côtoie de plus en plus. Et il est vrai qu'il est peut-être bon de se poser la question sur la manière de finir.
Cette affluence pour un événement dédié à la mort n'étonne pas Alexandre Pilonel. Ce sociologue à la Haute École de Travail Social et de la Santé de Lausanne étudie depuis des années le suicide assisté ou aide au suicide, comme on le décrit plus volontiers en Suisse. On parle souvent aussi de mort douce, même si le terme n'est pas neutre. La réalité, dit Alexandre Pilonel, est un peu plus complexe.
Ça correspond à une mort douce parce qu'on s'endort finalement assez tranquillement. C'est pas très rare d'entendre par exemple des ronflements avant que la mort survienne dans une assistance au suicide. Donc je pense que ça se rapproche dans notre imaginaire de ce qu'on pourrait qualifier d'une mort douce. Ce qui est d'ailleurs particulièrement étonnant en Suisse, c'est qu'administrativement, l'assistance au suicide relève d'un suicide et donc considérée à l'inverse comme une mort violente qui ouvre systématiquement sur une instruction judiciaire.
Mais pourquoi le suicide assisté s'est-il imposé en Suisse? La réponse n'est encore aujourd'hui pas évidente. C'est la France qui est l'une des premières en Europe à dépénaliser l'acte suicidaire avec le code pénal napoléonien en 1810. Et il faut attendre 1942 pour que la Suisse parle du suicide assisté dans son code pénal. Et encore, il le fait par omission, puisque son article 115 précise simplement qu'on ne peut pas aider quelqu'un à se suicider si on est animé par un mobile égoïste, comme la perspective d'un héritage. Pour le reste, la Suisse est traversée par les mêmes réflexions sur la fin de vie que ses voisins.
Ça relève d'une part du fait qu'il y a un fort processus de médicalisation de la mort, ce qui fait qu'il y a une critique qui va plus ou moins émerger dans les années 1980, c'est la question de l'acharnement thérapeutique. Et je pense qu'il y a une autre donnée qui est très importante, c'est que la mort se déplace. Ça veut dire que la mort ne se vit plus à domicile, mais qu'elle se vit principalement en institution hospitalière.
L'une des particularités du suicide assisté en Suisse, c'est qu'il repose sur des associations de bénévoles. L'une des plus connues s'appelle Exit. Elle a fait l'objet d'un film il y a quelques années, Exit, le droit de mourir, réalisé par Fernand Melgar, et qui a contribué un peu plus à lever le voile sur la question de la fin de vie.
Vous savez que c'est vers votre mort que vous allez aujourd'hui. Ça ne vous inquiète pas?
Elle a bu la potion, elle s'est endormie et tout d'un coup, elle est partie. Son amie m'a regardée, elle l'a sentie comme moi.
Je crois que ma décision, elle est claire, quoi.
Exit a été créé en 1982 en Suisse romande. L'association compte plus de 33 000 membres. Ça ne veut pas dire 33 000 candidats au suicide assisté, simplement que ces personnes se réservent le droit de faire appel un jour si elles en ressentent le besoin aux bénévoles de l'association pour mettre fin à leur jour. La procédure est désormais bien rodée. Gabriella Jonin est la coprésidente d'Exit Suisse romande.
Alors une personne doit déjà donc nous fournir une lettre manuscrite comme quoi c'est son choix et un rapport médical mentionnant les pathologies et la capacité de discernement. Ce dossier est validé par un médecin conseil qui étudie chaque demande. L'année dernière, ils ont étudié plus de 640 demandes. Mais bien entendu, lors de ce premier entretien, nous proposons toutes les autres alternatives telles que les soins palliatifs mobiles, enfin bref. Et nous n'avons aucun endroit pour aider les gens. C'est nous qui nous déplaçons auprès des personnes.
421 personnes ont été accompagnées, c'est le terme, l'an passé par Exit en Suisse romande. Si on ajoute les demandes acceptées en Suisse alémanique et en Suisse italienne, ce sont près de 1400 personnes qui se sont suicidées en 2021 avec Exit. Un chiffre en hausse quasi constante, mais qui ne comprend pas les décès des étrangers qui viennent en Suisse pour recevoir une aide au suicide. Exit s'y refuse pour le moment. D'autres associations, en revanche, acceptent ces demandes. Il y a eu plusieurs cas très médiatiques ces dernières années, dont l'ancienne secrétaire d'État française aux personnes âgées, Paulette Guinchard. Mais Exit peut accompagner ces personnes si elles habitent en Suisse.
Moi, j'ai aidé personnellement une personnalité qui est venue s'installer en Suisse pour pouvoir avoir l'assistance au suicide, parce qu'en France, ça n'existe pas. Je dirais sur 40-50 téléphones par jour, il y en a une dizaine qui sont de résidents français qui demandent notre aide. C'est quand même beaucoup. Je trouve tellement malheureux qu'on doive quitter son pays pour aller mourir ailleurs. Les gens, même ici, s'ils sont hospitalisés, ils veulent être chez eux, rentrer à domicile, dans leur milieu qui leur est cher. Et là, on demande à un résident français qui est déjà atteint dans sa santé de quitter son pays, sa famille, son entourage pour mourir en Suisse. Je trouve ça affreux. Donc j'espère sincèrement que ça va bouger en France.
À ce stade, il est important de rappeler le poids que la religion chrétienne, catholique et protestante, peut avoir en Suisse. La Suisse n'est d'ailleurs pas officiellement un État laïque. Plusieurs cantons ont une religion officielle. Ils se chargent même de collecter l'impôt pour les églises auprès des personnes qui se disent croyantes. Que le suicide assisté se soit développé ici est donc presque paradoxal quand on sait à quel point le suicide est tabou dans la religion. Mais pourtant, il est aujourd'hui largement accepté, ou en tout cas toléré par la société suisse, y compris et de plus en plus par les ecclésiastiques.
On a actuellement dans le canton du Valais, qui est un canton très conservateur, très catholique, où c'est un peu plus compliqué, mais nous avons de plus en plus de membres en Valais aussi et de plus en plus de demandes. Et aujourd'hui, moi j'ai été hier rencontrer une personne qui souhaite une assistance. Un pasteur était présent et le pasteur sera présent le jour de la délivrance de cette personne en disant « mais je l'accompagne à ma manière, mais je serai là, je l'accompagnerai. » Des prêtres, c'est plus rare, ça m'est arrivé deux fois. Il faudra du temps.
Le débat est pourtant loin d'être clos. On l'a dit, l'aide au suicide est évoquée de manière indirecte dans le code pénal suisse, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre légal. Le docteur Philippe Eggimann est l'un des représentants de la Fédération des médecins suisses.
Il n'y a pas de loi nationale sur l'assistance au suicide. Le Parlement et les autorités ont toujours refusé de légiférer en la matière. La raison en est simple, c'est que dans ces domaines déontologiquement et éthiquement un petit peu délicats, nous bénéficions d'un cercle de réflexion qui s'appelle l'Académie suisse des sciences médicales. Et ces prises de position font force de loi quand une affaire est discutée dans les tribunaux. Donc ces directives ont une importance toute particulière pour les professionnels de la santé, puisqu'ils sont tenus de les appliquer.
Alors, que disent ces directives ? Qu'en plus de ne pas pouvoir être motivé par un mobile égoïste, l'aide au suicide ne peut être délivrée qu'à des personnes en pleine possession de leurs moyens intellectuels. Jusqu'à récemment, il fallait également être considéré comme en fin de vie, mais ce n'est plus le cas depuis le printemps dernier. Après des années de discussions et de désaccords entre les médecins et les associations, on considère désormais qu'on peut accompagner des personnes qui expriment une souffrance insupportable, à condition, encore une fois, qu'un médecin ait posé un diagnostic sur cette souffrance.
C'est un débat qu'on ne pourra jamais clore. Après la définition de la souffrance extrême, la porte est maintenant ouverte à des conditions qui permettent de vérifier que c'est bien le cas, que cette souffrance n'est pas supportable et qu'elle est effectivement constitutive d'une justification pour quelqu'un de se suicider. Mais vous comprendrez bien que, contrairement à ce que voudraient certaines associations qui parlent d'urgence extrême, j'ai un petit peu de peine de prendre un coup de téléphone à 2 heures du matin et lui dire « Ok, pas de problème, venez à 8 heures demain au cabinet et vous ressortez avec ce qu'il faut pour vous suicider avant le café. »
La réalité, c'est que les associations n'ont pas attendu les directives de l'Académie pour prendre les devants. Elles préfèrent parler de polypathologie invalidante, souvent liée à l'âge. C'est exactement ce qui a amené Jean-Luc Godard à faire appel à Exit. On admet donc que des personnes qui ne sont pas techniquement malades puissent se suicider, mais certains cas sont plus compliqués que d'autres. Début novembre, nous avons rencontré Anne. Elle nous parlait de ses douleurs au dos qui l'empêchaient de rester debout, assise ou même couchée sans souffrir.
Ben aujourd'hui, ben je me sens comme malheureusement tous les jours avec des douleurs à longueur de journée, avec des pics plus ou moins douloureux. Et quand on me voit, suivant comment on se dit, ben là, elle a... c'est bon quoi, elle marche. Mais je marche, mais avec des douleurs chaque pas. Enfin, je veux dire, j'ai horriblement mal quoi. Je peux plus m'asseoir. Je peux plus marcher pratiquement. J'ai mal aux doigts à force d'être allongée. J'ai pas de position de confort. C'est juste invivable. Je n'ai plus de vie tout simplement. Moi, je considère ça comme un cancer de la douleur. Voilà.
Malgré plusieurs opérations, l'état de santé d'Anne ne s'est pas amélioré. Désemparée, elle a fait appel à Exit, mais aucun médecin ne lui a donné le feu vert pour obtenir un barbiturique, sans doute à cause de son âge.
Je pense que le problème, c'est que personne ne veut prendre la responsabilité aussi, parce que c'est une lourde responsabilité de dire il n'y a plus rien à faire. Je ne rentre malheureusement pas dans un cadre qui est incurable, hein, je veux dire, voilà. Et c'est bien ma peine parce que je vois que les médecins sont démunis, qui ne savent plus quoi faire avec moi. Quand on a discuté effectivement avec Madame Dexit, ma mère était là et Madame Dexit lui disait, mais si elle avait votre âge, il n'y aura aucun problème, donc... Plutôt, je serai délivrée, le mieux ce sera parce que j'en peux juste plus.
Quelques semaines après notre entretien, Anne s'est suicidée sans passer par Exit. Un geste de désespoir face à ce qu'elle considérait être une impasse thérapeutique. Elle avait 56 ans.
Suivez-moi, Milo.
Retour à présent à Genève. Nous avons parlé des candidats au suicide assisté, mais il ne faut pas oublier le rôle que jouent les bénévoles des associations. Chez Exit Suisse Romande, ils sont une trentaine à accompagner les personnes vers la mort. Christine Brennenstuhl l'a fait pendant plus de 30 ans.
La toute première fois, je me suis dit, je vais voir comment je réagis, comment je sens les choses, parce que si je ne suis pas à l'aise, je ne peux pas faire ça. Parce que pour accompagner ces personnes, je considère qu'il faut être soi-même OK, qu'il faut être apaisante, rassurante, et qu'on n'a pas, si on a des tourments ou qu'on ne dort pas la nuit parce qu'on va faire une assistance le lendemain, je pense que ça, c'est une erreur et il faut stopper tout de suite.
Christine Brennenstuhl est une partisane convaincue de l'aide au suicide. Comme tous les membres d'Exit, elle-même se réserve le droit d'y recourir si elle estime que sa santé décline au point de ne plus vouloir vivre. Mais son rôle n'est pas non plus de pousser les gens vers la mort, c'est presque le contraire.
Je vous donne un exemple, quelqu'un qui vous dit « oui, je suis prêt, je suis déterminé ». Et puis dans la conversation comme ça, il dit « moi je suis allé visiter un EMS, un EHPAD en France hein. ». Ben, moi en tout cas, ça me fait tilt. « Ah, vous avez visité un EMS ». Donc ça veut dire qu'il y avait une alternative à votre situation. Et puis quelquefois, vous découvrez qu'il y a une pression de la famille parce que aller en EMS, ben, ça veut dire que vous allez perdre de l'argent pour les héritiers. Donc, dans des cas comme ça, on n'assiste pas, évidemment.
Assister quelqu'un ne veut pas dire l'aider directement. Contrairement à la Belgique, l'euthanasie active est interdite en Suisse. C'est à la personne de prendre le poison. Le bénévole n'est là que pour l'accompagner dans ses derniers instants et attendre la police qui doit constater le décès. Christine Brennenstuhl ne sait plus combien de fois elle s'est retrouvée dans cette situation et ce n'est sans doute pas un hasard.
Quand tout est terminé, je m'en vais et la personne, elle sort de ma vie. Et elle sort même de ma mémoire. Alors, elle sort de ma mémoire parce que je pense que c'est ma manière à moi de me protéger, de me dire, ben voilà. Si tout d'un coup, par exemple, on me demande Madame Machin, spontanément, il faut que je remette l'adresse, etc. Je regarde pour me ressouvenir de la dame. Ces gens-là, ils ont été de passage dans ma vie, j'ai vécu un grand moment avec eux et ils sortent de ma vie et de ma mémoire. Je peux pas dire ça, je sais pas comment font les autres, mais pour moi, c'est comme ça.
Parler du suicide, qu'il soit assisté ou non, représente toutefois un défi et un piège. Un défi parce que parler de la mort n'est jamais quelque chose de facile, même quand elle est programmée, et un piège parce que les médias donnent parfois une version presque romantique de l'aide au suicide, telle qu'elle est pratiquée en Suisse. C'est ce que regrette Léonore Dupont-Loup de l'association Stop Suicide.
Alors on va notamment avoir la notion d'autodétermination, penser que le suicide assisté est un choix rationnel et déterminé. Sur 10 personnes qui ont cette possibilité-là, seule une ira au bout et finira effectivement par recourir au suicide assisté. Autour de la notion de dignité, ce qui est problématique, c'est que ça renvoie en fait à des personnes dépendantes, que ce soit des personnes âgées ou des personnes handicapées. On passe le message que le suicide assisté est une solution digne pour ne pas finir dépendant physiquement d'autres personnes. On envoie un message à ces personnes-là qui peut être assez blessant.
Ce terme de dignité est d'ailleurs repris dans le nom de la plupart des associations qui militent pour le suicide assisté. Autre problème, dit Léonore Dupont-Loup, c'est l'absence de discours contradictoires sur le thème du suicide assisté.
Moi, ce que je souhaiterais, c'est que dans la médiatisation, on pense en priorité à ces personnes vulnérables, à ces personnes dépendantes, que ce soit à cause de handicap, à cause de vieillesse, et qu'on pense à comment elles peuvent recevoir ces messages-là. Et puis surtout, on voit peu de récits de personnes qui, par exemple, ont envisagé le suicide assisté et y ont renoncé. On voit peu de récits de personnes, de proches, qui ont perdu des parents par suicide assisté, par exemple.
Monsieur Mermot, bonjour. Vous allez bien ?
Oui, oui, ça va.
Claude Mermot est l'une de ces voix dissonantes. Cet ancien instituteur affirme ne pas être opposé par principe au suicide assisté, mais il estime que la Suisse est allée trop loin. Il s'est battu en justice pour empêcher que son frère n'ait recours au service d'exit parce qu'il estimait qu'il n'était pas malade. Il en a fait un livre au titre évocateur « Je vais mourir mardi 18 ».
Effectivement, il avait un petit peu d'arthrose, la vue qui avait légèrement baissé, mais il avait une santé étonnamment bonne, pour son âge, meilleure que celle de ses frères. Tout de suite, la justice, en lisant l'état de santé de notre frère, nos déclarations, il y a des photos à l'appui, a tout de suite interrompu le processus et Exit n'a pas pu agir. Et notre frère en était désespéré. « Mais pourquoi est-ce que tu m'attaques ?» disait-il. « Mais je ne t'attaque pas, j'attaque Exit. »« Et pourquoi attaques-tu Exit ?»« Parce que tu es en bonne santé. » Et à l'époque, les directives de l'Académie suisse des sciences médicales spécifiaient bien qu'on ne peut administrer la mort que lorsque la fin de vie est proche.
L'histoire s'est malheureusement mal terminée. Le frère de Claude Mermot s'est finalement suicidé sans passer par la case Exit.
J'ai ça sur la conscience. C'est moi-même qui vais vivre avec ça jusqu'à la fin de mes jours. En quelque sorte, j'ai tué mon frère, si on veut, ou je l'ai obligé à une mort terrible. Alors oui, mais je dis, il a été obligé. Mais qui l'obligeait ? Il était prisonnier d'une logique d'exit qui a banalisé la mort et qui veut essayer de faire comprendre à la population. Si quelqu'un dans vos proches veut mourir avec exit, on est prêt à vous aider. Et je suis dans la conviction profonde que la mort apaisée n'existe pas.
Claude Mermot le concède, sa position est aujourd'hui ultra minoritaire en Suisse. Mais à voir le nombre d'articles qui continuent à être publiés sur le sujet, on se dit que l'aide au suicide n'a pas fini de faire parler d'elle. Régulièrement, des cas suscitent la polémique. À Genève, par exemple, un ancien médecin d'exit doit toujours être jugé pour avoir aidé une femme à mourir juste parce qu'elle voulait se suicider en même temps que son mari. Se pose également la question des personnes atteintes de maladies neurodégénératives qui parfois ont recours à exit très tôt de peur de ne plus pouvoir le faire quand la maladie se sera installée. Et puis il y a le cas très compliqué des jeunes, voire des mineurs, une question taboue parmi encore tant d'autres, conclut le sociologue Alexandre Pilonel.
Je pense qu'aujourd'hui encore, l'assistance au suicide est traversée par un certain nombre de débats sur le principe finalement. Je pense que c'est relativement aujourd'hui admis. La mise en pratique, par contre, c'est quelque chose d'autre. Il y a encore beaucoup de médecins qui vont hésiter, par exemple, de prescrire cette fameuse ordonnance pour accéder à la solution létale, parce qu'ils considèrent tout simplement que c'est une forme de participation. Et je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui en Suisse que l'assistance au suicide soit quelque chose de complètement pérenne et que ça soit quelque chose d'indiscutable et qui ne fait pas encore l'objet de polémiques.
Accepté et parfois idéalisé par certains, redouté par d'autres, la mort par suicide assisté est une réalité bien en place. Même si elle reste marginale, elle représente moins de 2% de tous les décès enregistrés chaque année en Suisse.
Suisse, la mort tranquille, Un grand reportage de Jérémy Lanche, réalisation Pauline Leduc.